dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Et c'est un autre livre qui va nous occuper pendant les 35 minutes qui viennent, un livre signé d'une autre Françoise. Bonjour Françoise Lavocat.
Bonjour.
Vous êtes professeure de littérature comparée à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous êtes membre de l'Institut Universitaire de France. Ce livre qui va nous occuper s'intitule « Fait et fiction, tout ça au singulier, sous-titré « Pour une frontière ». Il a paru aux éditions du Seuil. C'est une somme, issue d'un travail de recherche, je pense, de longue haleine. Une somme importante qui fait le point sur un certain nombre de choses qu'on voit poindre ici ou là, dans différents domaines, mais essentiellement dans le domaine qui vous intéresse, qui est la littérature, même s'il fait appel à d'autres domaines, aux sciences cognitives notamment. Vous aviez écrit un livre sur les rapports entre littérature et sciences cognitives. Et nous avons donné à lire ce livre à un écrivain, plus exactement à une écrivaine qui était avec nous en première partie et nous avons profité de sa présence pour lui proposer de rester dans cette deuxième partie pour parler de votre livre parce que ces sujets-là l'intéressent grandement, c'est Maëlys de Kerangal. Maëlys de Kerangal, vous étiez en première partie pour évoquer votre chemin de table paru dans la collection Raconter la vie. Raconter la vie, c'est vraiment la frontière entre la fiction et le réel. Et la fiction et le réel, vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup réfléchi notamment dans Naissance d'un pont, dans Réparer les vivants. C'est une matière sur laquelle vous travaillez et ce depuis longtemps. Ce livre de Françoise Lavocat vise précisément à repenser les liens entre fiction, réel, littérature. Vous partez d'un constat, d'un postulat, j'ai envie de dire, Françoise Lavocat, selon lequel on a tendance à confondre aujourd'hui réalité et fiction, et peut-être qu'on a tort. Est-ce que c'est ça, le point de départ ?
Eh bien, effectivement, j'ai essayé de faire un panorama des pensées qui, depuis les années 70, postulent l'abolition de la frontière entre fait et fiction. J'ai aussi montré que c'était pas tout à fait nouveau, qu'il y avait toujours eu, même à l'âge baroque, un scepticisme qui allait dans ce sens. Et j'ai essayé de montrer que, pour des raisons cognitives, logiques, philosophiques, mais aussi légal, c'était certainement, c'était aller un peu vite de dire que qu'il n'y avait plus de frontières.
Une petite question de vocabulaire qui intéressera tous nos auditeurs qui sont sourcilleux, ils ont bien raison de l'être, et notre écrivain autour de la table. Pourquoi dites-vous fait et pas réel ou pas réalité? Il y a de nombreux livres, de nouveaux ouvrages, essais ont été écrits sur réalité et fiction, mais vous, vous avez choisi le mot fait.
Eh bien, en effet, je me suis intéressée à deux questions et j'essayais de montrer qu'elles étaient liées, qui était le rapport entre le factuel et le fictionnel, comment discriminer, reconnaître un ouvrage factuel, quelle réaction avons-nous face à une représentation factuelle, c'est-à-dire référentielle ou fictionnelle, mais je pense que cela est lié aussi aux relations que nous pensons entre la réalité et l'imaginaire. Je pense que ces deux questions sont effectivement liées, la question de la représentation et la question du rapport, en effet, entre imaginaire et réel. En général, il y a, pas toujours, mais il y a un soubassement sceptique fort de négation de la relation, de la différence entre réalité et imaginaire à des considérations plus théoriques sur l'absence de différence entre les représentations.
Je voudrais juste revenir un point sur cette fameuse frontière à laquelle vous tenez, donc entre fait et fiction. Vous avez dit qu'il y a longtemps qu'on jouait avec cette frontière et cependant qu'aujourd'hui on avait le sentiment qu'elle était plus en cause qu'elle ne l'a jamais été. Pour quelle raison aujourd'hui, comment ça se manifeste cette volonté d'arraser la frontière ?
François Lavocat.
Je pense que l'irruption du virtuel joue un grand rôle dans la façon dont la question se pose aujourd'hui. Et je m'en suis en particulier rendu compte quand j'ai examiné l'aspect légal de cette question. En effet, lorsqu'il s'agit pour les juges de décider si un livre doit être condamné parce qu'il fait référence à une personne réelle et que cette personne se plaint, les juges trient, si je peux m'exprimer ainsi, les briques fictionnelles et les briques factuelles. Ils essayent de, et ils répondent à une sorte de dualisme implicite et parfois non réfléchi. En revanche, quand il s'agit de représentation virtuelle, on s'aperçoit qu'il y a un trouble, je pense, une difficulté encore à saisir la nature ontologique de ces représentations. Et on voit, en particulier en ce qui concerne la pédopornographie virtuelle, que les lois ne font, ça dépend des pays évidemment, mais généralement aucune différence entre le fait qu'il s'agisse d'une photographie ou d'un dessin ou d'une représentation virtuelle sans référent. Enfin, ça dépend, hein. J'ai montré qu'il y avait des différences aux États-Unis, en Europe, en France. Mais là, je crois qu'on assiste véritablement à une espèce de trouble qui aggrave en effet l'indistinction, l'idée d'une indistinction.
Et en quoi c'est grave, en quelques mots, puisqu'on va y revenir, selon vous?
Écoutez, par exemple, dans cette question, je trouve qu'il est assez grave de ne pas faire la différence entre une bande dessinée et une photographie. Je pense que s'il y a effectivement une victime réelle qui est en jeu, c'est pas du tout la même chose que si c'est un exercice d'imagination. Je pense qu'en effet, l'exercice d'imagination doit être protégé.
C'est pour défendre la fiction, pour défendre le réel que vous estimez nécessaire, cette différence, Françoise Labocat?
Le réel n'a pas besoin d'être défendu. En revanche, l'histoire de la fiction est, la fiction est fragile et l'histoire de la fiction est marquée, en effet, par d'incessants procès, des reculs. Nous avons l'impression que la fiction règne planétairement. Tout le monde regarde des séries et des blockbusters, etc. Mais je pense que la fiction reste suspecte, reste condamnée, reste à défendre, en effet. Et si je défends justement la frontière entre fait et fiction, en effet, c'est parce que je l'ai dit, j'aime la fiction et je pense qu'elle est un peu à protéger.
Maëlys de Kerangal.
Moi, je trouvais que c'était un livre absolument passionnant, l'idée que vous allez comme ça redessiner les contours de la fiction. Et en le lisant, évidemment, je me suis demandé un peu moi ce que je faisais en fait. Est-ce que dans quelle mesure je situe mes textes de part ou d'autre de cette frontière que vous contribuez à instaurer. Alors, pour moi, par ailleurs, il y a quand même des signes qui sont extrêmement forts qui font qu'on est ou non dans une littérature factuelle, une littérature de fiction, en tout cas de part et d'autre de cette frontière, et notamment la question des noms. Par exemple, ce livre, Un chemin de table, c'est un livre que je considère comme étant une fiction. Et pour moi, de toute façon, mon travail, je suis résolument, je me situe résolument dans un travail de fiction, bien que catalysant des faits, mais qui sont plutôt d'ailleurs moins des faits que des poches de réel que la littérature, le langage va essayer d'explorer. Mais rien que par cette histoire des noms, pour moi, tout est là. L'emploi des noms est quand même une énorme frontière. Ce cuisinier, Mauro, ce n'est pas son vrai nom. Parce que si j'avais donné son vrai nom, j'aurais donné tous les vrais noms du système, et notamment les noms de ses employeurs, parce qu'il n'y avait aucune raison que lui ait son vrai nom, mais que, si vous voulez, le monde se dérobe et se met à fuir, qu'on ne puisse plus attraper les noms des cuisiniers qui lui ont, par exemple, lancé des cuillères au visage. Et les noms de ses restaurants également sont devenus fictionnels, c'est-à-dire sont devenus inventés. Alors, et en fait, pour inventer ce nom de Mauro, c'est-à-dire ne pas donner le vrai nom, j'ai dû inventer un jeu fictionnel
qui raconte.
Parce que c'était pour tenir la cohérence du projet. Parce que c'est une collection un peu particulière où les curseurs de la fiction sont précisément assez bas, et des curseurs, si vous voulez, de l'enquête ou de l'investigation, ou des curseurs du réel, du documentaire, sont plutôt placés haut. Et pour rester dans un objet cohérent du point de vue littéraire, si je ne donnais pas le nom de Mauro, alors tout change et le jeu doit être fictionnel. Le mien doit être fictionnel. Je ne suis pas l'ami de ce garçon dans la vie. En tout cas, je le suis peut-être devenu, mais au cours de ce travail. Mais si vous voulez, pour moi, il était impossible que le jeu qu'il raconte ne soit pas fictionnel, parce que du coup, il me permet de subjectiviser aussi cette histoire, d'y inscrire l'empathie, de proposer un regard. Et vous parlez beaucoup de la question du regard dans la fiction.
Et de l'empathie, et de l'identification.
S'il y a fiction, il y a regard. Hein. C'est beaucoup ce que vous dites. Et pour moi, voilà, cette question des noms, elle est importante. Et notamment, et c'est, je trouve passionnant de la partie du livre, ce qui est sur les problèmes juridiques liés à cette notion qui émerge de invention de vie privée imaginaire. Enfin, pardon, de vie privée imaginaire, etc. J'ai trouvé que c'était assez très, très intéressant.
Françoise Lavocat. Merci, je suis tout à fait d'accord avec vous et je trouve très très intéressant ce que vous dites, comme j'ai beaucoup aimé votre livre. Oui, vous avez raison, la question des noms et la question de la première personne sont complètement sont liés et sont essentiels. Bien sûr, les noms, dans la partie que j'ai consacrée aux sciences cognitives, je me suis aperçue, enfin, j'ai lu des études qui montraient que l'exposition d'un sujet à des scénarios identiques, mais l'un avec un nom fictionnel, Cendrillon, et l'un avec un nom factuel, référentiel, George Bush, déclenchait dans le cerveau des réactions tout à fait différentes. Ça met en jeu des mémoires différentes, des types de mémoires différentes. Hein.
Mais qu'est-ce que ça change du point de vue de la lecture ?
Eh bien, je pense qu'en effet, ça change, ça met en jeu, en effet, je suis pas spécialiste de sciences cognitives au point de vous en donner les détails, mais ça met en jeu des réactions différentes. Je ne pense pas que l'émotion, par exemple, que la fiction est le monopole de l'émotion. Des textes factuels peuvent provoquer autant d'émotions. Mais je pense qu'en effet, si des livres se situent un peu à la frontière, c'est qu'ils veulent conjuguer des effets différents. Et je pense que c'est une longue histoire, mais fait et fiction provoquent en effet des réactions au moins cognitives tout à fait différentes.
Maëlys de Kerangal.
Oui, moi je suis très intéressée par ce concept de monde possible que vous examinez, surtout que vous créez. Et alors je m'interrogeais sur un roman que j'ai écrit qui s'appelait Naissance d'un pont. Et c'est un exemple, mais je voulais raconter donc le chantier d'un pont et la construction d'un pont dans un roman. Évidemment, à l'époque, il venait de se construire le viaduc de Millau. Donc, il y avait beaucoup de choses disponibles, notamment des ingénieurs qui l'avaient construit, des films qui en attestaient qui racontaient un peu cet événement, ce fait de cette construction de ce pont. Et finalement, j'aurais eu tout, vous voyez, tous les matériaux pour écrire. Mais alors quoi ? Alors parce que romancer, le problème c'est plutôt le fait d'aller fictionner le factuel. Hein. Et finalement, moi j'ai considéré que pour libérer la fiction d'un assujettissement au factuel, j'ai préféré inventer aussi ce pont et le placer dans un lieu qui était quand même une utopie, une Californie qui est un peu imaginaire, qui est un peu troublée, et puis un pont qui n'existait pas et dont j'allais régler la construction via des exemples, des modèles et un bréviaire, etc., qui pouvait être donc qui d'ailleurs était emprunté à plusieurs constructions de ponts. Mais voyez, je parle ce que j'aime bien dans cette histoire de monde possible, c'est que c'est des systèmes clos quand même. Et pour moi, le roman, il y a quelque chose quand même du système clos. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence interne. Pour moi, par exemple, c'est raconter la construction du viaduc de Millau, mais avec, par exemple, l'ingénieur en chef, qui serait un personnage, mais qui ne serait, vous voyez, inventé avec un nom de personnage, mais qui ne serait évidemment pas le personnage qu'il a construit ou la personne. Là, on est un peu ailleurs. Et j'aime assez cette notion de monde possible qui fonctionne avec son ontologie propre. C'est ce que vous dites.
Françoise Lerocard.
Pour le coup, j'aime assez cette histoire de frontières. Ça, elle opère, en fait, en tout cas dans mon travail.
Oui. Alors, je n'ai pas inventé la notion de monde possible.
Non.
Vous me faites trop d'honneur.
Non, mais vous l'examinez.
Ouais. Alors, un monde possible qui a son ontologie propre, en effet, qui a ses modalités propres, du point de vue de la morale, du point de vue du possible, du point de vue... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Cela dit, il est vrai aussi que même si ce monde est entouré de frontières, j'ai montré que non seulement nous désirions beaucoup passer cette
les
frontière,
franchir.
Les franchir, oui. Que le jeu de la littérature
se situe beaucoup
effectivement dans le rêve de franchissement de cette frontière, et aussi que les fictions étaient très souvent hybrides. Alors apparemment, ce n'est pas c'est pas ce que vous faites, mais que le mélange en effet d'éléments factuels et fictionnel était très souvent le fait de toute fiction. Et alors, j'ai envie de dire quelque chose sur votre joli livre. Moi, vous voyez, je l'ai cru factuel. Et donc...
On s'est tous laissé prendre en tant que lecteur.
Je l'ai cru factuel.
On a vraiment cru que Maïs de Carangal était l'ami de Mahorot, que Mahorot existait.
Elle existe.
Non mais...
Ah oui, pardon.
Vous existez, oui. Mais c'est le jeu est fictionnel, comme vous l'avez dit.
Oui, le jeu est fictionnel.
Et ce qui est amusant, c'est que quel est finalement l'outil pour vérifier la réalité? C'est Internet. J'ai vu qu'il n'y avait pas de Mahorot. Enfin, il y a bien Mahorot Calogreco, mais il ne correspond pas du tout à votre personnage.
Les noms de restaurants sont changés.
Il n'y a pas
aussi,
de restaurant, etc. Donc, mais je dois dire aussi que c'est bien votre première personne qui m'a entraînée vers le soupçon de fictionnalité. J'ai pensé en effet que cette première personne, la discrétion de cette première personne était un signe de fictionnalité. J'ai pensé en effet que votre jeu d'utilisation était subtil, que par exemple quand vous faites intervenir la première personne dans l'examen que passe le personnage, il n'est pas possible que l'ami ou que la journaliste ou que participe à cette situation. Et donc c'est presque toujours le cas. Un examen attentif de votre livre.
Elle est toujours là. Le jeu est toujours là.
Dénonce, en effet, souligne sa fictionnalité, c'est vrai.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Fait et fiction, c'est le titre d'une somme publiée par la professeure de littérature comparée Françoise Lavocat, qui est notre invitée aujourd'hui pour dialoguer avec Françoise Lavocat. Vous l'avez entendu, l'écrivaine Maïlys de Carangal est à nos côtés et Antoine Mercier qui a une question à poser à Françoise Lavocat.
Voilà, je vais revenir sur cette frontière effectivement entre fait et fiction pour bien comprendre les enjeux de tout cela, de l'effacement de cette ligne. Par exemple, est-ce qu'on peut déplacer un peu la question de la littérature sur le musée, puisque vous en parlez, sur le fait qu'il y aurait une perte de savoir qui serait entraînée par les scénarisations fictionnelles que propose le musée. Alors là, on voit que c'est plutôt le réel, si je puis dire, en tout cas le savoir, ce qui est dans le musée, qui est atteint par cette fin des frontières. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que ça pose un problème selon vous?
Oui, c'est vrai. c'est vrai, là, c'est le réel qui est atteint. C'est en tout cas le capital de savoir. Je comprends
Pour l'exemple du musée, dites-nous ce qui se passe pour l'exemple du musée.
Écoutez, je peux vous...
Manifestement, il n'y en a pas qu'un exemple.
Non, il n'y a pas qu'un exemple, mais je vais vous en donner un. L'histoire d'un certain Anton qui a vécu la guerre, qui a vécu la peste, qui finalement se marie avec une princesse. Donc cette histoire est déroulée le long des salles de musée. Et vous avez un petit Rembrandt, eh bien c'est la mère d'Anton. Donc nous ne sommes pas supposés voir un Rembrandt, nous sommes supposés cognitivement intégrer le Rembrandt dans une histoire fictionnelle absurde, enfin en tout cas pleine de clichés pitoyables, et considérer que c'est un personnage, que ce n'est plus une œuvre d'art, c'est un personnage qui intervient dans une petite fiction. Et tous les tableaux de ce musée, il s'agissait du musée de Salzbourg, étaient donc intégrés dans un dispositif fictionnel. Et là, véritablement, je pense que ce genre de fictionnalisation se fait au détriment de, à la fois du savoir et de la, peut-être de la jouissance des œuvres, de la, enfin peut-être.
Mais au nom de quoi on fait ça, selon vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui est à l'œuvre là-dedans? Quelles sont les intentions, sans doute louables, pour intégrer, pour rendre plus facile l'accès?
Mais certainement, c'est quoi l'idée? Oui, c'est certainement la fictionnalisation, je suppose, est censée être attirante. On doit considérer qu'une visite de musée est peut-être une activité culturelle obsolète ou ennuyeuse.
Mais là, c'est une narration, Françoise Lavocat.
Oui.
C'est une particularité de la fiction, mais vous ne réduisez pas la fiction à la narration. La fiction, c'est aussi tout ce qui est imaginaire. Or là, c'est la scénarisation, c'est une narration, c'est-à-dire un récit pour les besoins d'une exposition, d'un musée. C'est une dimension seulement de la fiction dont vous parlez dans votre ouvrage. Elle est beaucoup plus large, cette fiction.
Oui, bien sûr, je ne réduis pas la fiction à la narration, comme le disait très bien tout à l'heure Maëlys de Kerangal. Je considère plutôt la fiction comme un monde possible, mais ici, il est vrai que j'ai trouvé le monde si pauvre.
C'est plus ça, c'est que la narration était ratée, comme un livre ou un roman peut être raté.
Non, il y a quand même un problème de principe, malgré tout.
Oui, c'est ça la question.
C'est que le Rembrandt, effectivement, n'était plus un Rembrandt.
Je pense que le monde
était instrumentalisé, on va dire, par
historique, culturel qu'il y a derrière Rembrandt, qui est peut-être un peu plus difficile d'accès, est effectivement beaucoup plus intéressant qu'une, qu'une vague petite histoire fiction. Je pense aussi, effectivement, que c'est une question de fond. Je ne pense pas que cette scénarisation était légitime, en effet.
Donc ça veut dire que dans certains cas, il faudrait revenir au réel, au savoir, en l'occurrence. Dans d'autres, défendre la fiction quand il s'agit, par exemple, de procès d'écrivains faits au nom du réel, là où ils répondent que c'est au nom de la fiction. C'est-à-dire, à quel moment faites-vous, à votre tour, la frontière entre ce besoin d'insister sur le réel et ce besoin de défendre la fiction?
Peut-être que la frontière défend les deux.
Voilà, tout à fait. Cela dit, je ne défends pas non plus la fiction à tout prix.
En tant que telle?
En tant que telle, il y a effectivement des fictions grossièrement référentielles, avec nom propre, qui sont condamnées. Et je trouve que c'est normal. Je trouve qu'effectivement, on tombe facilement dans la diffamation. Je ne trouve pas...
Donc c'est presque du cas par cas.
Mais oui.
La frontière doit être bien établie et ensuite...
Mais bien sûr, il serait absurde, je crois, de simplifier, de dire que toute fiction doit être défendue parce qu'elle est une fiction. Non, les fictions sont généralement hybrides. Il y a des hybridations qui non seulement sont esthétiquement ratées, il y en a qui sont réussies, et puis il y a des hybridations qui sont scandaleuses. Et je ne trouve pas absurde du tout que la loi les sanctionne.
Puisse intervenir. Antoine.
Oui, quand on voit votre thèse donc, sur la frontière, en élargissant, on est quand même frappé que cette question-là touche beaucoup d'autres domaines. L'effacement des frontières, que ce soit pour les pays, pour la mondialisation, que ce soit pour, par exemple, les espèces, que ce soit pour toute chose, on a la volonté, on a le sentiment qu'aujourd'hui, les frontières sont quelque chose qui sont remises en cause, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et j'ai l'impression qu'il y a donc là une question globale qui se pose. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'ontologie propre de ce qu'est la fiction. Est-ce que nous ne sommes pas là dans une difficulté à pouvoir accepter une altérité, quelque chose qui soit autre, en voulant effacer la frontière ? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu considérable de société, de civilisation ?
Françoise Lavocat.
Bon, il ne faut pas non plus considérer, même s'il y a des enjeux politiques, légaux, comme je l'ai dit, autour de la frontière entre fait et fiction, il ne faut pas non plus tout mélanger. La frontière entre fait et fiction n'a pas grand-chose à voir avec la frontière des pays, la frontière entre les espèces. Et je pense aussi que c'est à l'intérieur de la fiction que l'on trouve justement la pluralité des espèces, la pluralité ontologique, l'hybridité.
Je ne vais pas vous faire passer pour une réac, rassurez-vous, mais malgré tout.
Non, et justement, je pense que défendre la frontière entre fait et fiction n'est pas un postulat réactionnaire. C'est pour ça que je suis un petit peu méfiante à l'égard d'une politisation de cette question, parce que le brouillage n'est pas de gauche et la frontière entre fait et fiction n'est pas de droite. Et donc, effectivement, je suis un petit peu réticente à l'égard d'un élargissement idéologique.
Maïs de Carangal.
Non, je me demandais, par exemple, si vous considérez que ces contours entre la littérature factuelle et la littérature fictionnelle. À un moment, vous parlez beaucoup d'hybridation, mais est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il puisse y avoir une espèce de résolution de ces deux espaces dans ce qui pourrait être une espèce d'incorporation? Et par exemple, je pense à un livre qui pourrait être De sang froid, par exemple, de Truman Capote. Est-ce que, par exemple, ce livre-là, qui est vraiment un modèle, en fait, qui a inspiré beaucoup d'auteurs qui ont après suivi un peu cette veine de la littérature factuelle, enfin, qui
s'est inspiré d'un fait divers.
Parce qu'en fait, on a beaucoup réfléchi aussi sur le fait que le roman, par sa plastique, par sa forme, justement, c'est un genre éminemment plastique, pouvait tout absorber, tout était soluble dans le roman et tout est a priori soluble dans le roman. Selon moi, sauf une chose, je préférerais toujours, alors là, lire les chroniques judiciaires que un roman sur un procès. Pour moi, ça, je sais pas. Je l'explique mal, mais pour moi, les comptes rendus d'un procès ont toujours. Je dis ça parce qu'on a travaillé avec le collectif Inculte sur justement des collections de procès et on a essayé de sonder le XXe siècle à l'aune de 10 grands procès par décennie. Et c'est vrai que c'était un exercice formidable, mais qu'il y avait voilà que par exemple, je trouve qu'il y a une irréductibilité de ces matériaux-là. Et alors voilà, il y a l'idée quand même que le roman peut accueillir par exemple un fait divers référencé, daté, où il y aurait et quand même ce livre de Truman Capote, il est considéré comme étant une fiction en fait, parce qu'il y a ce jeu qui raconte. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incorporation comme ça qui est possible?
Françoise Lavocat.
Écoutez, l'incorporation, vous l'avez dit tout à l'heure très bien. La question des noms propres, la question de la première personne est décisive. Ils ne sont pas incorporables, ils ne sont pas assimilables. Quant aux faits divers, là encore, c'est au cas par cas, le temps passant, qui s'intéresse aux faits divers qui a été à l'origine du jour et le noir, du rouge et le noir.
Qui s'en souvient déjà.
Il y a une thèse dans les années 40 sur le fait divers, donc il y a des gens qui s'en souviennent, mais enfin, bon,
généralement,
on considère que le rouge et le noir est une fiction. Mais je pense quand même qu'il est important, me semble-t-il logiquement, philosophiquement, de considérer qu'un élément référentiel reste référentiel dans une fiction et que donc il n'y a pas de nappage fictionnel qui fictionnalise tout. Mais encore une fois, l'écrivain... Écoutez, il y a un livre, je crois, de Jean-Louis Janel qui montre très bien que le travail de beaucoup d'écrivains au début du siècle, dans la première moitié du siècle, consistait à déréférentialiser leur matériel. Ils réécrivaient en faisant disparaître les indices référentiels, les noms de lieux. Et je crois que c'est un travail que beaucoup d'écrivains ne font plus parce que ils veulent justement avoir les avantages de la référentialité. Ce n'est pas un hasard si on veut que le fait divers soit reconnaissable, si l'on veut que si le nom propre reste intact. Donc, il y a effectivement une hybridité référentielle dans la fiction. Tout n'est pas assimilable, mais il y a un travail que vous faites d'ailleurs de déréférentialisation qui permet de, en effet, de fabriquer un monde possible, a son autonomie.
Oui, il y a une notion intéressante dans le livre, notamment sur cette frontière, qui est le blasphème. Vous en parlez pendant plusieurs pages. Pourquoi cette notion de blasphème est-elle justement difficilement interprétée dans cette frontière, puisqu'on peut considérer que ceux qui considèrent qu'il y a une atteinte blasphématoire dans une fiction considèrent que c'est une réalité et pas une fiction, précisément.
Justement, la question du blasphème montre que tout n'est pas assimilable dans une fiction, qu'il n'y a que le nappage fictionnel. J'ai même donné des exemples où l'intégration fictionnelle était très forte, comme justement dans les versets sataniques de Salman Rushdie. Hein, c'est quand même, le blasphème intervient dans un rêve, etc. Bon, la question du blasphème montre que selon les communautés interprétatives, et bien selon le statut de la référence, pour certaines communautés, la référence n'existe pas, pour d'autres elle existe, elle est historique ou même sacralisée, et bien pose des problèmes. Alors cela dit, évidemment, ma position sur ces questions est plutôt d'autoriser, que les démocraties doivent autoriser la pluralité des versions, hein, et que les gens peuvent s'exposer à une pluralité de versions, même sur des références sacralisées, mais évidemment, c'est une des limites de la fiction, bien sûr. Selon certaines communautés, c'est bien la preuve, en effet, que les éléments référentiels restent référentiels.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek.
Et c'est au cinéma que vous nous emmenez pour terminer, Françoise Labocat.
Oui, à la fin de La Rose pourpre du Caire, je pense que beaucoup d'auditeurs se rappellent le visage de l'héroïne Cécilia, qui après sa déception amoureuse, après avoir abandonné le personnage fictionnel qu'elle aimait et avoir été abandonnée par un homme réel, eh bien est de nouveau absorbée dans une nouvelle fiction. Et cette fiction, joue contre joue, me semble parler du désir que l'on a d'être joue contre joue, d'être tout contre le personnage fictionnel, de le rencontrer, de passer la frontière. Et c'est effectivement le rêve de Cécilia, et je pense que c'est le rêve de tous ceux qui aiment les fictions.
Cheek to cheek, chanté par Fred Astaire.
When we're out together dancing cheek to cheek.
Merci Françoise Labocat. Je rappelle le titre de cet ouvrage que nous n'avons fait qu'effleurer, Fait et fiction pour une frontière. C'est édité au Seuil, tout comme nous pouvons trouver au Seuil votre dernier livre, Maïlys de Carangal, Un chemin de table, paru dans la collection Raconter la vie. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin, et à la technique aujourd'hui, Dophar Guéride.